cette petite question. C'est entrer dans le problème de l'analogie, n'est-ce pas? C'est de dire, dans une attitude de réflexion, au point de vue de la liberté de la philosophie, comprendre ce que représente dans notre vie intellectuelle l'aspect de l'intelligence lié à la raison. Je crois que c'est toujours comme ça que nous devons essayer de comprendre l'analogie. L'analogie est un procédé typiquement humain. On se demandait si les anges ont un procédé analogique de connaissance. Dieu sûrement pas, Dieu contemple. Le propre de la vie de Dieu, c'est de contempler. Et il y a au plus intime de notre intelligence une soif de contemplation. C'est parce que nous sommes de pauvres êtres rampants, nous avons beaucoup de peine de rester sur la contemplation. Nous revenons toujours à nos raisonnements. Et le raisonnement, c'est notre démarche à quatre pattes. C'est-à-dire parce que nous sommes des êtres qui devons progresser dans notre raison, alors notre intelligence, nous raisonnons. Le mode du raisonnement et de l'intelligence, qui est la même faculté qui est de notre intelligence humaine, est toujours liée. Nous ne pouvons pas rester uniquement dans la raison si nous voulons être des contemplatifs. Des quantités de monde, des quantités de personnes demeurent dans le raisonnement. Ça, je crois que la vie, 90% je dis pas des intellectuels, des personnes qui au fond des intellectuels. Aujourd'hui, surtout, la dialectique fait qu'on veut rester dans le raisonnement et on reste tout le temps dans le raisonnement. Et là, on n'arrive plus à la contemplation. Il y a un poids du raisonnement qui est tellement grand qu'on n'arrive plus à la contemplation. Alors, l'analogie, c'est d'essayer de comprendre comment notre intelligence, tout en étant une intelligence qui raisonne, et cependant une intelligence qui est toujours une intelligence qui cherche la contemplation. Je dis ça, vous voyez, nous l'avons pris d'une autre manière la dernière fois, je reprends toujours différemment dans les diverses causalités, le grand procédé aristotélicien. Un problème se prend selon les différents aspects. Alors, on le prend dans un aspect, on prolonge et puis tout d'un coup il y a un obstacle. Là, si nous frappe indéfiniment devant une porte qui nous veut défoncer, casser la tête, ça ne va pas. Alors il faut tout reprendre sous un autre aspect. Alors je le prends, la fois dernière nous l'avions pris par le point de vue de la cause formelle, maintenant je le prends par la cause finale, vous comprendrez tout de suite. Nous allons revenir ensuite par la cause formelle. Nous pouvons regarder l'analogie par le point de vue de la causalité finale. Pourquoi l'analogie? Pourquoi parlez-vous de l'analogie? Pourquoi l'intelligence humaine est une intelligence qui a besoin d'analogie? Et pourquoi ne reste pas tout le temps dans le raisonnement? Et pourquoi elle ne reste-t-elle pas tout le temps dans la contemplation? Je pourrais rester dire, je dirais, mais voilà, la contemplation, au point de vue surnaturel et au point de vue même métaphysique, dépasse l'analogie. Elle est dans un repos et dans un effort de contemplation, donc elle dépasse l'analogie. Surtout au niveau de la contemplation mystique, on est au-delà de l'analogie, parce que la foi nous met au-delà de l'analogie. On peut l'oublier. La foi nous permet d'adhérer directement au mystère de Dieu. Dieu n'est pas analogique. C'est Dieu qui est la réalité substantielle qui nous est donnée pour connaître. La contemplation, elle, adhère immédiatement au mystère de Dieu. La contemplation mystique, de manière encore plus profonde, grâce à l'amour. Le raisonnement, presque tous les raisonnements, sont tout à fait distincts de la contemplation, c'est une démarche diamétralement opposée, parce que la contemplation peut toucher la fin, le raisonnement, il est dans le devenir. C'est le devenir de notre intelligence, de notre raison. Le raisonnement lui-même n'a pas un mode analogique. Il peut avoir un mode analogique, mais en ce qu'il est dans le devenir. Et on sent très fort dans la dialectique, donc il est dans le domaine beaucoup plus de la quantité. Alors, qu'est-ce qui va permettre de faire que nos raisonnements s'allègent et que nous retrouvons dans l'intelligence quelque chose de plus qualitatif? Ce sera l'analogie qui sera comme un procédé tout à fait particulier qui nous empêchera de rester dans le raisonnement et de remonter toujours vers la contemplation. On pourrait dire que l'analogie est un appel à la contemplation, qu'il n'est pas la contemplation, qu'il est un appel à la contemplation. Une intelligence qui a saisi vraiment le domaine de l'analogie, de ce que c'est que l'analogie, ne peut plus rester dans le raisonnement et désire aller au-delà. Et désire saisir quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il faut maintenir en nous cet aspect de l'analogie. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que l'analogie est dans l'ordre de la vie d'intelligence l'aspect qualitatif, alors que le raisonnement c'est l'aspect, si vous voulez, quantitatif, c'est le devenir, tandis que l'analogie est vraiment l'aspect qualitatif. Et cet aspect qualitatif de l'intelligence demande d'aller toujours plus loin, et donc d'aller jusqu'au terme et la contemplation. Alors, l'analogie sera ce moment de la vie de l'intelligence qui essaie de dépasser tous les raisonnements pour redécouvrir cet aspect contemplatif. Mais en comprenant bien que l'analogie n'est pas l'aspect proprement contemplatif. Que la contemplation, on fait toucher le terme. Et donc c'est un petit... C'est curieux, c'est une espèce de purification de notre intelligence raisonnante pour qu'elle redécouvre son appétit contemplatif. Pour qu'elle redécouvre cet appétit contemplatif et qu'elle découvre vraiment ce que c'est que la contemplation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette analogie? Bien, je crois que l'analogie, c'est le sens très très aigu de l'ordre. C'est ça que ça conduit à la contemplation. C'est le sens très aigu de l'ordre, en ce sens que l'ordre, c'est toujours dans l'unité, la diversité. C'est-à-dire que l'intelligence saisit dans l'unité, saisit la diversité, et alors l'analogie lui permet, au-delà de la diversité, de saisir l'unité. Et une fois qu'elle aura saisi cette unité, et qu'elle pourra essayer de la dégager plus profondément, elle essaiera de la contempler. L'unité dans l'ordre n'est pas... C'est pas ce qu'on contemple, mais c'est ce qu'il faut découvrir pour dépasser l'ordre et pouvoir contempler. Et quand vous êtes uniquement dans l'ordre successif et quantitatif, vous êtes dans le raisonnement. Alors il y a un dépassement à l'intérieur de l'ordre pour saisir ce quelque chose qualitatif qui nous permet de bondir. Oui. Ça c'est pour essayer de comprendre pourquoi nous tenons tellement à l'analogie. C'est pour sauver le caractère contemplatif de l'état. S'il n'y a plus analogie, il n'y a plus capacité contemplative de l'état. La dialectique moderne, hegelienne, tue la contemplation. Une fois que vous avez compris ça, vous avez une sainte horreur de la dialectique. Ce qu'il faut avoir, une sainte horreur de la dialectique. C'est le mal de la vie de l'intelligence. C'est le cancer de la vie de l'intelligence qui empêche l'intelligence de découvrir la contemplation. Alors, il y a une dialectique qui est bonne, c'est sûr, il y a une dialectique qui est bonne, mais à un niveau tout à fait, qui n'est pas de départ. Mais quand on prend la dialectique comme le cheminement profond de la vie de l'intelligence, le cheminement normal de la vie de l'intelligence, il n'y a plus. Voilà. Essayons de voir, je vais rappeler très rapidement les différents niveaux que nous avions vus, mais toujours dans cette perspective-là. Alors, je vous avais dit, le point de départ, selon l'ordre génétique, le point de départ de l'analogie, nous devons découvrir dans le jugement d'existence qui se fait à travers les diverses sensations. Vous saisissez le réel. Si vous aviez l'intuition du réel, vous n'auriez pas de connaissance analogique. Vous absorberiez le réel. Le boa n'a pas de, l'estomac qui prend tout, qui absorbe tout, il n'a pas besoin d'analyser. Si vous aviez une intuition des choses, vous n'avez pas. Quand vous regardez comme ça, vous n'avez pas regardé la vie. C'est parce que votre intelligence mendie le réel qui existe à travers les divers sensations. Votre contact avec le réel n'est pas le même de la vision, n'est pas le même avec le point de vue du toucher, n'est pas le même avec l'ouïe, n'est pas le même sans contact. Vous touchez, vous détectez le réel à travers les diverses sensations. Et pourtant, au-delà des sensations, vous découvrez toujours ce qui est. L'intelligence découvre quelque chose de commun au-delà des cinq sens et à travers les cinq sens. Vous voyez, la diversité des sens est l'unité que l'intelligence découvre. Et l'intelligence découvre alors, dans le jugement d'existence, quelque chose de commun, c'est la même réalité qui est atteinte à travers les cinq sensations. Alors, je dis, nous sommes là, non pas en face d'une connaissance analogique parfaite, hein, c'est le fondement. Vous avez déjà là quelque chose de tout à fait particulier à la vie de l'intelligence, c'est que l'intelligence doit s'approcher du réel de diverses manières. Et s'approchant du réel de diverses manières, il y a déjà fondamentalement, pas formellement, mais fondamentalement, une connaissance analogique. Vous allez me dire pourquoi ce n'est pas une connaissance analogique absolue. C'est parce que, pratiquement, le jugement d'existence me permet d'adhérer au réel. J'adhère au réel à travers la sensation, mais c'est toujours le même réel que j'affirme, ceci est. Donc dans le ceci est, au sens strict, il n'y a pas analogie. Ce réel que je saisis, à travers les modalités, l'analogie joue au niveau des approches diverses. J'approche différemment ce réel, je l'approche en le voyant, en le touchant, en le sentant, en le goûtant, je l'approche diversement. Alors là, il y a une diversité, mais c'est le même réel. C'est ce réel qui existe. Et donc, au sens tout à fait précis, il n'y a pas de connaissance analogique. Il y a affirmation d'une réalité. Vous verrez progressivement. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez bien que ça, c'est la base. Communauté de base. La base. C'est le point de vue, et ce n'est pas une communauté formellement dite, la communauté de base. Et c'est exactement aussi comme l'analogie. L'analogie n'est pas au sens strict une connaissance analogique. Mais elle nous fait comprendre cette chose très très curieuse que notre intelligence a besoin de revenir au réel, toujours sous des aspects différents. La véritable connaissance analogique va apparaître à partir de la connaissance du principe. C'est à partir de la connaissance des principes, c'est-à-dire à partir de l'induction. On a montré la différence entre induction et analogie. Vous allez tout de suite voir comment l'induction est le moyen qui va me faire découvrir une connaissance analogique. Là, je dis toujours une connaissance analogique. Hein, et le fondement de la connaissance analogique, c'est l'analogie de l'être. C'est une connaissance qui est analogique. C'est la connaissance ou l'attribution, ou la parole. Comme je vous l'avais dit, il y a des niveaux différents où il faut saisir l'analogie. Il y a le niveau de la connaissance, c'est là où elle apparaît en premier lieu. Il y a le niveau de la parole, et il y a son fondement. Il y a toujours cette vision de cette manière-là, parce qu'autrement, vous ne voyez pas. Et c'est ça qui explique du reste combien les modernes ont de la peine à comprendre l'analogie. Parce que le fait qu'ils ne voient pas, c'est différent de vous. C'est à travers la connaissance, et la connaissance intellectuelle, que l'analogie va apparaître en premier lieu. C'est au niveau de la connaissance, c'est une connaissance analogique. Cette connaissance analogique, elle s'exprime dans le dire. communique dans le dire. Il y a un dire, c'est le langage. Il y a un langage analogique. Une attribution analogique. Donc ça, c'est le langage. La plupart du temps, on reste à ce niveau-là. Et la connaissance exprime la réalité. Alors on dira que, d'une certaine manière, en dernier lieu, la réalité est analogique. Vous comprenez, quand je parle de ces trois analogies différentes, il y a trois aspects tout à fait différents. Connaissance analogique, réalité analogique, je dirais l'être est analogique. C'est quand on dit que l'être est analogique, qu'est-ce que ça veut dire, l'être est analogique? Et puis le dire est analogique. Donc il y a trois niveaux différents. Trois niveaux différents, plus exactement, trois modalités différentes. Et puis il y a des niveaux analogiques différents. Il vaut mieux dire ça. Il y a trois modalités analogiques. L'analogie au niveau de la connaissance, l'analogie au niveau du dire, l'analogie au niveau de la réalité. Bon. Les niveaux maintenant. Vous comprenez bien ça, parce que ça, il faut bien saisir. Il y a le fondement. Alors, jugement d'existence. Jugement d'existence à travers les diverses sensations, les cinq sensations. Ça, c'est le fond. Tout en venant. Je vois bien que je saisis le réel sous des modalités différentes. Et donc, c'est le fondement. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a comme connaissance analogique? Le dire. J'affirme toujours ceci est. Il n'y a pas d'analogie dans le dire. Ceci est. Simplement. Au point de vue connaissance, oui, parce que j'aborde le réel selon des modalités différentes. Et donc, à l'intérieur des modalités différentes, je peux dire qu'il y a une connaissance diverse. Autre chose est affirmée, ceci est, par le point de vue de la vue. Autre chose est affirmée, ceci est, par le point de vue du toucher. Parce que par le point de vue de la vue, les soucoupes volantes, elles existent, je les ai vues. Est-ce que vous avez touché? Vous voyez? Donc, votre jugement d'existence n'est pas le même, n'a pas la même valeur si vous dites je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai senti. Récemment, on fait ça couramment. Il y a une fuite de gaz. J'ai senti. Mais c'est beaucoup moins sûr, d'une certaine manière, que lorsque on voit une explosion. Là, ça, c'est quelque chose de moins net. Hein, parce qu'il peut y avoir des hallucinations. Olfactive, il peut y avoir des hallucinations de vision, et ainsi de suite. Bon, alors la connaissance est diverse, parce qu'il y a des différentes modalités. La réalité, ceci est, non, elle n'est pas analogique. Elle est. Bon, deuxièmement, vous allez voir. Ceci, c'est pour vous faire comprendre que si on est attentif à ces trois moments-là, on comprend mieux. Deuxième moment de l'analogie. L'analogie au niveau de la découverte des principes propres. Or, les principes propres se découvrent, on l'a vu, on dit principes propres. Je prends tout de suite, si vous voulez, au niveau métaphysique. Hein. C'est plus clair, les principes propres au niveau métaphysique. Parce que le niveau, il y a les principes propres au niveau philosophie de la nature, la physique, la nature. Il y a l'âme et il y a l'ousia. On est toujours les trois en parallèle, parce que les trois en parallèle nous aident à comprendre des niveaux différents sur lesquels on saisit les principes propres. La fousie, c'est au niveau du simple mouvement, la réalité est physique, l'âme, c'est au niveau du vivant, et l'ousia, c'est au niveau de ce qui est. Dans la même réalité, par rapport à vous, je peux saisir métaphysiquement, philosophiquement, ces trois principes. Nous avons tous en nous une fousie. Nous avons tous en nous une âme, et nous avons tous en nous une ousia. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est trois réalités différentes? Non, c'est la même réalité saisie sous trois aspects différents. Commencez à comprendre un tout petit peu l'analogie. Hein. La même réalité saisie sous trois aspects différents, à des niveaux différents. Mais c'est la même réalité. C'est votre âme qui est la nature forme. Qu'elle est sur forme. Et c'est bien ça le principe de votre être. Et donc la même réalité peut jouer. Et puis alors il y aura parallèlement le point de vue de la métaphysique matière, le point de vue du corps. Alors il y a là pas de principe matériel du côté de l'être. Vous aurez le principe de l'individuation analogiquement. Le comment, la manière dont on intègre la matière en métaphysique. On intègre la matière en métaphysique par le problème du comment. Comment Lousia existe-t-elle? Elle existe comme une réalité composée. Mais au sens rigoureux, la matière, il n'y a pas de principe propre analogue à la phusis matière et au point de vue du corps. Ça, c'est un problème très particulier, très difficile. Bon, ce que nous avons, la saisie, la découverte de ces principes propres se fait par le point de vue de l'induction. C'est l'induction qui me conduit à cette phusis, qui me conduit à cette âme, qui me conduit à cette lousiette. L'induction. Nous avions vu que l'induction est un procédé de l'intelligence, un procédé de l'intelligence. Je pars du sensible pour découvrir ce qu'il y a de plus profond dans la réalité. Donc je parle du sensible multiple pour découvrir le principe 1. Et l'induction, c'est toujours le passage de la multiplicité vers l'unité. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça qui nous aide à le mieux comprendre ces conclusions. On parle de la multiplicité que j'expérimente, que je touche, pour arriver à l'unité que je saisis par intelligence. Et ce passage se fait grâce à l'interrogation. C'est l'interrogation qui permet, si vous voulez, c'est l'interrogation qui donne le dynamisme à l'intelligence. Hein. C'est l'interrogation qui permet à l'intelligence de passer du multiple vers l'un. De ne pas s'arrêter au multiple. On est paresseux. On s'arrête au multiple et on le décrit. Quand vous restez uniquement au niveau de la description, vous restez au multiple. Et ça, c'est la paresse de l'intelligence. Dès que l'intelligence veut aller plus loin, elle interroge. C'est pour ça que l'interrogation, c'est le dynamisme interne de l'intelligence qui veut aller plus loin. Mais si je n'interroge pas, je n'irai jamais plus loin. Ça, c'est sûr. Merleau-Ponty dit « l'idéaliste n'interroge plus ». Ce qui montre bien que l'idéaliste, au fond, reste un niveau descriptif. Très, très significatif. Il va rester toujours à un niveau descriptif, il n'interrogera pas. C'est parce que je veux interroger que j'interroge. Je vois la diversité en moi de mes diverses opérations. Je dis, pourquoi cette diversité? Cette diversité a-t-elle une unité? Alors, de la diversité, à l'intérieur de la diversité, je découvre un ordre, et par l'ordre, je découvre un principe. Toute induction à ces trois moments. Toute induction. Vous décrivez une multiplicité, vous découvrez à l'intérieur de cette multiplicité un ordre, et vous désirez saisir le principe de cet ordre. De sorte que dans toute démarche inductive, il y a ces trois moments. Et alors à ce moment-là, vous découvrez le principe. Vous découvrez le principe à partir de la multiplicité. Et vous découvrez le principe comme étant quelque chose de réel, sans être adéquat au réel. Il y a une analyse qui fait que la même réalité peut être vue sous des aspects différents. Donc elle peut être vue en tant que nature-forme, en tant que nature-matière. Elle peut être découverte comme âme ou comme corps. Je peux regarder chaque vivant en regardant son corps ou son âme. Pas le même jugement. On n'a pas le même jugement. Il est fatigué dans son corps et son âme est pleine de vie. Mais il est fatigué dans son corps. Ça peut très bien se faire. On est fatigué dans son corps et son âme est pleine de vie. Et grâce à cela, sa fatigue est comme résorbée. Il n'y a plus loin. Deux jugements tout à fait différents. Et c'est le même réel. Donc vous voyez ici qu'à l'intérieur même de votre connaissance du réel, vous avez une diversité, qui est la diversité des principes. À partir des diverses interrogations, vous avez les quatre ou les cinq corps. D'accord. connaissance des cinq causes me met en présence d'une connaissance formellement analogique. Formellement analogique, oui. Connaissance des cinq causes, puisque les cinq causes me font toucher le réel, le même réel, sous cinq aspects différents, à travers cinq interrogations différentes. Vous voyez les différences entre le jugement d'existence, où il y a les cinq sensations, et ici, je retrouve les cinq interrogations qui me font découvrir, vous voyez, une chose d'analogue, ça je vous apprends, qui me font découvrir le réel, mais alors là, vraiment, pas seulement comme dans le jugement d'existence où j'adhère au réel en disant ce qui est, mais je l'analyse. Et j'analyse le même réel sous cinq modalités différentes. Alors là, je suis vraiment en face d'une connaissance formellement analogique, parce qu'il y a une diversité dans l'unité à l'égard de la même réalité. Je saisis l'âme, je saisis le corps, je saisis l'âme comme principe de détermination, comme forme, je saisis l'âme comme fin, je saisis l'âme comme source de vie. Donc je saisis sous des aspects différents, et c'est la même réalité que je saisis sous des aspects différents. Donc, on peut dire qu'il y a là formellement connaissance analogique, il y aura nécessairement dans l'attribution une connaissance analogique différente, et la réalité elle-même, je dirais là, est atteinte sous des aspects différents. Donc si elle est atteinte sous des aspects différents, je commence à comprendre qu'il y a dans la réalité un fondement de la connaissance analogique. La réalité n'est pas analogique, elle est analogique qu'à cause de ma connaissance. Si la réalité était analogique, Dieu ne connaîtrait pas la réalité. Puisque Dieu n'a pas une connaissance analogique. Alors, il connaît la réalité sous un mode intuitif, sous un mode contemplatif, sous un mode créatif. Et donc il la connaît d'une façon exhaustive. Et que moi, je ne la connais pas d'une façon exhaustive. C'est pour ça que je la connais par mode d'analyse. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre alors maintenant, troisièmement, le seul niveau de la connaissance analogique, ce sera la découverte de l'axe. Principe ultime. Découverte de l'axe et découverte du principe, de la puissance. L'être en acte et l'être en puissance. Là, nous sommes au sommet dans l'analyse philosophique. Nous sommes au sommet. C'est le même procédé, puisque c'est à l'intérieur même d'une induction que nous étions l'acte et la puissance. Je le mets parce que c'est un peu les deux extrêmes. Nous passons de la phusis à l'acte. Là, toute l'analyse philosophique de la phusis forme, de la phusis matière à l'acte. Et là, nous saisissons le moment ultime de l'analogie. Saisissons l'être en tant que fin, en tant qu'acte. Et immédiatement, nous saisissons sous l'aspect potentiel. Et en même temps que je saisis l'être en tant qu'acte, je le saisis comme dépassement de la substance et comme impliquant de la substance. Je le saisis comme dépassement de l'âme, mais impliquant l'âme. Je le saisis comme dépassement de la phusis, mais comme impliquant la phusis. Vous voyez ? Donc, tout le reste est contenu dedans. C'est pas séparé, il est contenu dedans. C'est un moment ultime sur lequel j'essaie de mettre en pleine lumière quelque chose que je ne désirais pas autrement. C'est pour ça qu'on dira que dans la connaissance analogique, il y a ce procédé tout à fait particulier, c'est qu'on explicite tout en laissant les choses dans le reste dans l'implicite. Mais tout le reste est en acte. Ça, c'est un procédé très curieux de connaissance. Mais c'est très vrai, vous n'avez qu'à réfléchir que quand vous saisissez l'acte, la substance est présente. L'âme est présente et la phusis est présente. Et c'est pour ça que je veux tout de suite mettre en parallèle la phusis matière et l'être en puissance. Il y a un parallèle entre les deux. Bon, alors là, je suis en présence. Nous reprenons, nous l'avions vu un peu plus détaillé, alors ça, simplement ici c'est un rappel pour vous remettre dedans et comprendre que c'est le prof de cette connaissance qualitative qui essaie d'analyser le réel sous ses aspects différents, en sachant très bien que tous ces aspects différents se fondent dans le réel, et que dans cette analogie, je saisis les principes, il y a quelque chose de particulier par rapport au réel. Donc, quatrième moment d'analogie. Alors, je vous disais que c'était l'analogie, une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu, l'existence du Créateur, on a un jugement de sagesse. Alors, on pourrait dire qu'il y a une utilisation de l'analogie dans la découverte de l'existence de Dieu. Ça, vous seriez en face d'une démonstration analogique, la démonstration a posteriori. On pourrait dire, mais je ne l'indique pas comme une structure, parce que ce n'est pas une structure, c'est l'utilisation de tout ce qui a été dit avant. Tandis qu'ici, nous allons avoir, dans le quatrièmement, vraiment une structure nouvelle. C'est le parallélisme entre le Dieu créateur et la créature. L'analogie entre l'infini et le fini. Tout à fait autre chose comme mode d'analogie. C'est ce qu'on appelle l'analogie au niveau de la théologie, si vous voulez. L'analogie au niveau de la théologie, c'est toujours l'analogie du fini à l'infini. C'est l'analogie du fini à l'infini, parce que d'un côté c'est Dieu, et de l'autre côté c'est la créature. Ici c'est l'acte et la puissance. Ici c'est la phusis forme et la phusis matière. Et là, c'est Dieu infini et la créature finie. Analogiquement, puisque ces diverses analogies sont analogiques les uns par rapport aux autres, hein, analogiquement, l'acte est au créateur ce que la puissance est à la créature. Vous voyez ? Je peux établir ces analogies-là. Je peux encore établir l'autre analogie. La phusis forme est à la phusis matière ce que l'acte est à la puissance. Et donc, ce que le Créateur est à la créature. Mais ce sont des analogies, faisons attention. Si vous tombez dans l'université, c'est une chose affolante. C'est là la souplesse de l'intelligence. C'est qu'elle peut établir ses proportions, ses relations diverses. Une fois qu'elle a compris ce procédé analogique, et ce procédé analogique est nécessairement analogique de l'analogie. Mais, c'est sûr, c'est la qualité de la qualité. Il est analogique d'analogie, puisqu'il y a diversité de procédés d'analogie. Je vois donc les trois niveaux. Premier niveau fondamental, second niveau la découverte, le point de vue ultime, quatrième niveau, créateur et infini. Alors, nous avons donc, si vous voulez, quatre moments, toujours quatre moments, dans le point de vue de l'analogie, quatre moments de structure. Est-ce que vous voyez bien ça? Là, s'il y a des questions, il faut les poser ici maintenant, pour qu'à partir de là, nous puissions avancer. Et je vais donner un peu différemment que la dernière fois, mais c'est la même chose. C'est une logique par rapport à la dernière fois. Alors, s'il y a des points que vous ne voyez pas, il faut le dire, parce que c'est important. Bon. Vous voyez, quand je prends créateur et créature, la très grosse différence, c'est que lorsqu'il s'agit du créateur, l'existence, l'essai est présent. Quand il s'agit de la créature, l'essai aussi est présent. C'est l'essai source et l'essai participer. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que cette dernière analogie repose sur la participation. Parce que ça, c'est un des gros problèmes classiques. C'est là où se divisent les thomistes. Alors, il faut saisir leur division et leur mécontentement mutuel. Quand vous regardez le point de vue de l'essai, c'est vrai, le créateur, c'est ipsum esse subsistat. Vous n'avez pas d'intuition du créateur. Vous affirmez qu'il existe. Donc, c'est du côté de l'existence. Et la créature, c'est l'essai participer. Vous n'avez pas l'expérience de votre essai participé, de votre existence participée. Vous n'avez pas l'expérience actuelle de votre dépendance à l'égard de Dieu. Vous l'affirmez. C'est ça ? Il ne faut pas si mal. Et vous l'aimez dans l'adoration. Vous en vivez dans l'adoration. Mais spéculativement, vous n'avez pas l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience de votre dépendance actuelle vis-à-vis de Dieu. Alors,
C'est donc au niveau de laisser participer dans la créature et laisser par soi. Alors, il y a une analogie là qui est d'un type tout à fait autre que l'analogie de l'acte de la puissance. Pourquoi ? Parce que quand je suis de l'acte de la puissance, je suis au niveau des principes. Et là, je suis au niveau de l'essai. C'est pour ça que je dirais que cette quatrième analogie se fonde sur la participation. Mais les autres ne se fondent pas du tout sur la participation. Alors, quand on prétend que toute l'analogie se fonde sur la participation, vous voyez que là, on se trompe complètement. L'analogie ne se fonde pas sur la participation. L'analogie me fait découvrir la participation. Elle me permet de découvrir la participation. Et une fois que j'ai découvert la participation, je peux dire que c'est très vrai, c'est le fondement ultime de toute analogie. Mais ce n'est pas le fondement propre. Vous voyez ? De sorte qu'il y a deux moments, le jugement d'existence et la participation. Voilà les deux fondements. Les deux communautés de base. C'est le jugement d'existence et la participation. Et entre deux, l'analogie proprement dite, la découverte des principes. J'encadre toute l'analogie par les deux jugements d'existence. Le jugement d'existence du point de départ, le jugement d'existence dernier à l'égard de Dieu et à l'égard des créatures. Qui montre bien que l'analogie n'est pas proprement existentielle, elle est proprement au niveau de la découverte des principes. Au niveau existentiel, j'en vois toute l'extension, j'en vois tout le fondement. Mais je ne vois pas formellement ce qu'elle est. Mais c'est important de saisir ça. D'autre part, c'est aussi très important de bien saisir, ça va nous faire toucher un autre problème, que l'analogie est au niveau des principes et fondamentalement au niveau de l'existence. Que l'analogie n'est pas au niveau quantitatif, donc au niveau des catégories. Je viens d'avoir une conférence à Fribourg, une conférence avec monsieur le professeur Ricoeur, c'était métaphore et analogie, lui montrer que l'analogie n'existait pas et qu'il n'y avait que la métaphore. Plus exactement, la métaphore était la seule analogie possible. Bon, dire Ricoeur est protestant, il y a la ligne de Karl Barth, c'est très net, il a marqué très fort. Alors l'analogie des scolastiques, il faut la vénérer, mais on ne la comprend pas. Alors il faut la vénérer, il faut la réduire pratiquement à la métaphore, enfin, ramener tout à la métaphore. Alors, c'est très intéressant de voir dans son raisonnement la faiblesse de son raisonnement, c'était quand il ramenait toute l'analogie à la connaissance catégoriale. Disons, l'analogie, c'est la connaissance catégoriale d'Aristote. Les catégories. Justement, Aristote n'emploie jamais le mot analogie pour les catégories. C'est ensuite qu'on a dit, mais à partir de là, on peut étendre l'analogie. On peut l'étendre, mais il faut bien comprendre où elle naît. Elle naît à partir de la connaissance des principes, et pas au niveau des catégories. Alors, comme c'est une des questions qui est posée, je laisse toujours le fond du tableau sur l'analogie, et je vais tout de suite voir avec vous la différence entre la quidité et la connaissance d'un principe. Ça vous aidera à comprendre la naissance de la connaissance analogique, à la différence de ce que représente tout simplement la connaissance par mode quiditatif. Alors, la connaissance catégoriale, la connaissance catégoriale, vous voyez bien les catégories d'Aristote. Je vous ai dit qu'il faut les savoir par cœur, parce que c'est partie des connaissances qu'il faut connaître. Les catégories d'Aristote, substance, quantité, qualité, relation, action, passion, temps, lieu, situs, habitus. Et dictature. Il faut le savoir. Il faut voir qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que signifient les catégories d'Aristote ? Les catégories d'Aristote, c'est pour voir tout simplement une manière de rassembler
nos grandes attributions, catégorales, nos grandes attributions, nos grandes manières d'attribuer à la réalité la substance, la qualité, la quantité, et ainsi de suite. Et au fond, c'est comme un inventaire que vous faites du réel. Quand vous faites du réel et que vous voulez classifier le réel, vous le mettez, il a telle dimension, telle qualité, tel lieu, tel situs, ainsi de suite. Vous inventez, vous faites cette manière de situer exactement le réel à travers ces diverses catégories et leurs attributions. Les catégories expriment donc des modalités, des déterminations de l'être. Tout être implique ces 10 déterminations, au moins l'être humain. Parce que quand c'est pas l'être humain, c'est plus difficile. Avoir exactement. Mais il y a une partie de la physique. L'habitus, le dernier habitus, la dernière catégorie est propre à l'homme. C'est l'usage que je fais des choses, la manière dont je me sers de ma vie, la manière dont je me sers de l'outil, la manière dont je me sers de ceux qui sont proches de moi, et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait caractéristique de l'homme, ça. Alors, il faut bien saisir que quand je regarde une réalité, que j'essaie de regarder ces diverses déterminations, je donne ces diverses catégories. Je suis donc au niveau des attributions. Et en même temps, ces attributions, je sais qu'elles sont réelles, et elles veulent m'exprimer les diverses déterminations du réel. Je dirais que ces diverses catégories me donnent les diverses intelligibilités de l'être. C'est pour ça qu'Aristote dira le toti en aimai, c'est-à-dire l'acuité. Je vous rappelle. Quand vous pensez quiditas, rappelez-vous toujours le toti en aimai. Et le toti en aimai, comprenez bien le tien à l'intérieur de l'aimai, c'est-à-dire ce qu'est la réalité dans son intelligibilité profonde vis-à-vis de sa manière d'exister. Le toenai, le fait d'exister. Et puis, vous saisissez dans le fait d'exister son intelligibilité, sa détermination propre. Détermination propre à l'intérieur d'exister. Et évidemment, cette détermination, vous saisissez toujours à partir d'une réalité qui existe. C'est telle petite bête, tel caractère spécial, telle fleur, telle rougeur. Et j'ai vu cette fleur qui avait une couleur tout à fait autre que d'habitude. Une couleur tout à fait autre que de lui dire, vous la caractérisez par ça. Donc, le toti en aimai, c'est la recherche. Le toti en aimai, c'est d'essayer de définir la chose. Vous voulez définir par l'acuité. La définition exprime l'acuité. Quand vous définissez quelque chose, vous voulez exprimer ce qu'elle est. Vous définissez la tête du bon Dieu, ce qu'elle est. Vous définissez une fleur, ce qu'elle est. Vous définissez l'homme, ce qu'il est. Bon, c'est au niveau donc de l'intelligibilité profonde, le toti en aimai. Pas simplement une intelligibilité secondaire, mais une intelligibilité profonde. Ce qu'est la chose prise en elle-même, dans sa détermination propre. Mais vous savez bien que, à partir de ce moment-là, forcément, votre mode de connaissance étant un mode abstrait, vous allez pouvoir définir quelque chose d'universel. Vous ne définissez jamais l'individu. Et donc, dans ce procédé qui consiste à chercher le toti en aimai de chaque chose, vous abandonnez les quantités de détails, les quantités de choses secondaires. Et vous essayez de saisir ce qu'il y a d'essentiel dans cette chose, ce qui est définissable. Ce qui est définissable en vous. Et ce qui est ineffable en vous, c'est bien. Les autres vous définiront et vous direz non, je suis ineffable, je suis au-delà de cette définition. Non, les autres ne peuvent saisir que ce qu'ils regardent de l'extérieur, ce qu'ils peuvent mettre dans des cadres. Disons, on est dans des cadres, on a les grands cadres, les 10 prédicaments. Et les 10 catégories représentent des cadres réels, mais c'est quand même un cadre. C'est un aspect systématique, si vous voulez, sur lequel je définis les choses. Et je les prends dans leur point de vue essentiel de détermination propre. Quand je suis au niveau des catégories, qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce que je suis en présence d'une véritable connaissance analogique? C'est un très gros problème. Les meilleurs scolastiques, comme Jean de Saint-Thomas, ont dit qu'on avait une analogie au sens impropre. Parce que, de fait, on était au niveau des attributions, au niveau de la forme. On est en face d'un ordre. On n'en est pas au sens. On reste dans l'ordre. On reste dans la notion de l'ordre. On n'a pas la diversité absolue. Et l'ordre consiste à dire que tout est attribué en fonction de la substance, par la substance. Donc je ne suis pas en face d'une analogie parfaite. Je suis en face d'un ordre. C'est pour ça qu'Aristote ne dira jamais cela, analogie. Il dira simplement pros en, c'est-à-dire vers l'un. L'ordre est vers l'un. C'est pour ça que je reste dans l'ordre, dans une notion d'ordre. Telle qualité, telle quantité, telle action, telle passion, tel situs, telle main, et ainsi de suite. Donc je suis en face d'un ordre, je ne suis pas en face d'une analogie au sens tout à fait précise. Parce que je demeure trop à l'extérieur, dans l'ordre de l'attribution. C'est pour ça que Jean de Saint-Thomas dira que cette analogie est une analogie de dénomination. Je dénomme. Et c'est très vrai, si je prends uniquement les catégories, je ne suis pas en face d'une analogie absolue. Je suis en face et la connaissance fluiditative. La connaissance fluiditative est au-delà de l'essai de l'existence. On peut presque dire qu'elle est mise entre parenthèses de l'essai. Au fond, c'est ça. Je me regarde comme l'intelligibilité de la chose.